Je voudrais peut-être encore là-dessus lire une parole, ce que nous trouvons écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Une parole qui nous est très connue dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Ici, il est écrit, l'apôtre Paul le dit ici par le Saint-Esprit, saisi. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelle promesse merveilleuse nous est ici accordée, que nous, si je peux le dire ainsi, nous nous attachons à une sagesse, que nous nous sommes attachés à une sagesse qui n'est pas de ce monde et qui n'est pas à trouver chez les chefs de ce siècle. Cette sagesse vient d'en haut, du ciel, et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Que aujourd'hui, le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions regarder à lui, fixer le regard sur lui. Nous l'avons lu que si les sages, les chefs de ce siècle l'avaient connu, avaient connu qui est-ce qu'il était alors qu'il était sur cette terre, ils ne l'auraient pas crucifié, mais c'était dans le plan de Dieu. Et c'est le plan de Dieu que tout cela soit arrivé ainsi tel que c'est arrivé et c'est tel que Dieu l'avait déterminé. Et nous avions parlé avec le frère Dietmar en haut, le temps dans lequel nous vivons, il passe très vite, si rapide, et il va vers sa fin. Et Dieu nous révèle sa parole d'une manière que nous avons la grâce de reconnaître et de voir qu'il apparaîtra bientôt. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, que ce ne soit pas seulement que nous sachions ces choses, ou bien écoutions ces choses, ou bien voyons ces choses, mais que nos cœurs soient prêts à aller à sa rencontre avec des cris de joie, car ça ne nous servirait à rien, à toi, à moi, à nous, de savoir ces choses et d'avoir été enseigné et d'avoir reçu cette connaissance. Non, ça ne nous apporterait rien, tout cela, mais c'est seulement la grâce de Dieu qui nous rend capables, pas parce que nous sommes efforcés, mais c'est la grâce de Dieu et la miséricorde de Jésus-Christ qui, n'est-ce pas, est au-dessus du jugement, qui nous prépare et nous rend capables d'aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est peut-être raison que nous lui disons merci de ce qu'il a été frappé à notre place à la croix et qu'il a souffert pour nous. Nous, comme l'apôtre Paul ici l'a dit, par le Saint-Esprit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, le verset 9, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, nous l'avons reçu de Dieu comme offre de grâce, pas seulement comme offre de grâce, mais comme un gage, comme une assurance entre nos mains et nous devons seulement nous attacher à ces choses et rester attachés à ces choses. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons adorer son nom, lui apporter les actions de grâce pour sa fidélité et sa grâce qu'il nous a accordée. Et nous allons maintenant le remercier le Seigneur. Je voudrais aussi demander que quelques frères remercient le Seigneur pour la grâce et sa fidélité. Levons-nous pour le faire. Tu nous vois, tu connais nos cœurs, tu connais aussi nos désirs. Tu connais les motifs de nos cœurs, ô Dieu, et ce qui nous touche à venir ici nous rassembler. Seigneur, accorde ta grâce que nous puissions ouvrir nos cœurs pour que ta parole, la semence précieuse, tombe dans nos cœurs et qu'elle produise son fruit et que cette semence précieuse puisse sortir et te rendre gloire, te glorifier. Accorde ta grâce à ce qu'elle produit en nous, son fruit, selon son espèce. Accorde-nous ta grâce aujourd'hui de recevoir ta parole telle que tu nous la donnes. Fortifie-nous par ta parole. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et oins les lèvres aussi par lesquelles tu parleras et tu veux parler au Dieu. De nous, rien ne peut être fait. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses accorder ton bon Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses révéler ta volonté toujours plus parmi nous et dans nos cœurs et dans nos vies, ô Dieu. Révèle, Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi toi-même pour que nous puissions toujours t'avoir devant nous et te louer, t'exalter, que nous puissions en toi, dans ta parole, te chercher, car nous l'avons entendu hier, dans ta parole, il y a la vie. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous te remercions, Seigneur, de ce que en toi et dans ta parole, nous avons la sagesse qui vient d'en haut, mon Dieu, mon Seigneur. Je te demande, Seigneur, nous voici, nous te demandons, bénis tout ton peuple sur toute la terre, Seigneur. Tu vois et tu connais chacun, Seigneur, que l'un et l'autre auraient préféré être ici et ne peuvent pas être présents ici parmi nous. Mais nous savons que toi, tu es partout. Seigneur, tu réponds partout là où tu es invoqué. Et nous te remercions cela. Nous te remercions de tout notre cœur. Accorde ta grâce pour que nous puissions, Seigneur, ne pas manquer d'atteindre ce but. Seigneur, mais ce que nous avons lu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, ce qu'aucun œil n'a vu et qu'aucun oreille n'a entendu, des choses que tu as préparées pour ceux que tu as élus à cela, que tu as aimé. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que nous pouvons regarder à toi et l'atteindre par ta grâce. Amen. Amen. Quel privilège, nous te remercions, nous le disons toujours de nouveau, quel privilège d'être rassemblé sous l'écoute de la parole de Dieu, rassemblé au nom du Seigneur pour écouter ce qu'il a à nous dire et aussi de le croire, de croire sa parole et de ne rien ajouter et de ne rien interpréter, expliquer, mais d'attendre jusqu'à que l'heure de Dieu arrive et que cela plaise au Seigneur de faire ce qu'il l'a promis. C'est une grâce inexprimable de compter à ceux qui jusqu'à la fin persévèrent. Car celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné, pas le commencement, pas le milieu du trajet, mais c'est la fin qui comptera pour tous ceux, pour tous. Et Paul écrit aux Corinthiens, celui qui prend part à la course se décharge de tout ce qui pourrait abandonne tout ce qui pourrait le charger et l'empêcher d'atteindre le but. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour sa parole dans ce temps. Reconnaissant pour la révélation de sa parole, de sa volonté, de son nom. Reconnaissant pour ce que les hommes et les théologiens et les professeurs, ce que les enseignants des écoles appelées bibliques, ceux qui ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas apporter, Dieu, par sa grâce, nous l'a accordé. Et il a pris le plus simple, parmi les plus simples. Et il a révélé la parole la plus puissante, glorieuse de tous les âges. Il a mis en lumière et il a révélé à ceux qui s'estiment comme des enfants dans la présence de Dieu. Pas ceux qui apportent leur sagesse à droite et à gauche, qui viennent avec leur sagesse, mais qui viennent comme des vases vides, vides devant la face de Dieu. Ils seront toujours de nouveau, nouvellement remplis. Il y a quelqu'un qui disait des frères, je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas une réunion dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, nous ne serions pas bénis. Il n'y a pas une réunion, un culte dans lequel le Seigneur ne parle pas avec nous. Ça ne doit pas toujours être... ça ne doit pas toujours toucher chacun de la même manière. C'est pas chaque réunion, chaque parole qui a signifié tant pour tous. Mais dans chaque réunion, dans chaque prédication, Dieu, pour chacun, a eu quelque chose et a quelque chose. Parfois, c'est plus, ou bien la prochaine fois, moins, mais jamais Dieu nous a laissé repartir vite. Ses chemins avec son peuple sont pour nous et resteront pour nous insondables. Mais malgré tout, nous pouvons les reconnaître et y marcher. Et pour atteindre, et ayant le but clair sous nos yeux. Très brièvement, très rapidement, cette année sera derrière nous. Et nous regardons dans le futur et nous nous posons la question ce que le futur nous apportera. Mais nous sommes consolés, pleins d'assurance, de ce que ce n'est pas nous qui avons à planifier, mais que Dieu a déjà planifié tout. Comme le frère Rousse déjà le mentionnait. Et même si on venait à parler de toutes les directives et comment est-ce que Dieu a conduit, dirigé les choses, il y aurait des témoignages, témoignage sur témoignage de ce que Dieu a fait. Il n'y a même pas 14 jours d'ici, j'étais assis à New York avec un frère ensemble qui n'est même pas dans le message, pas du tout. Mais il écrit et il demande, je crois qu'il avait écouté 3 prédications, et il disait, frère Franck, je voudrais que tu puisses venir à New York. Et ici dans toutes les églises, j'aimerais que tu puisses venir et parler dans toutes ces églises avec qui j'ai des contacts. Et alors il me dit ensuite, je voudrais aussi que tu viennes en Jamaïque. Et alors qu'il disait Jamaïque, je me suis rappelé d'un entretien que j'avais eu à Londres avec un évêque, à Croydon, un endroit avant Londres. Et cet évêque me disait à Londres, je me suis rappelé de ça, tu as mentionné dans la prédication William Branham. J'ai dit oui, je l'ai fait. Il a dit, mais j'étais à l'époque à Kingston, en Jamaïque, et j'avais jamais auparavant et jamais après écouté un tel homme de Dieu et vu un tel homme de Dieu. Cet évêque avait une grosse croix pendante sur sa poitrine. Mais je me suis dit à moi-même, mais tu l'as écouté, mais tu n'as pas écouté Dieu. Par lui, tu as écouté une prédication, mais tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Mais en moi, malgré tout, depuis ce jour, j'avais un désir, une fois, d'aller en Jamaïque. Moi, frère Franck. Et ce frère-là, maintenant, le mentionne en Jamaïque, et me dit, j'aimerais là-bas pour toi préparer des réunions. Es-tu prêt à venir? J'ai tout de suite, bien sûr, dit oui. Quoique je m'étais proposé pour l'année qui arrive, ne rien planifier et ne plus rien promettre, mais d'attendre comment est-ce que Dieu conduira et dirigera. Mais vous savez, quand les portes s'ouvrent, comment est-ce qu'on peut rester assis? Nous avons un grand et puissant message que nous pouvons porter par le pays et par les pays. Et nous n'avons pas honte de la parole révélée et non plus de celui que Dieu a utilisé pour, n'est-ce pas, mettre en lumière et apporter les promesses pour notre temps. et nous les prêcher, mais nous témoignons très clairement. Ce n'est pas Frère Branham qui nous a révélé ces choses, mais c'est le Seigneur lui-même qui a parlé avec lui et qui les a révélés à son serviteur. C'est le même Seigneur qui, par le même esprit, m'a révélé et t'a révélé et nous a révélé à tous cette parole. Et c'est en cela qu'est constituée la grande distinction à faire. Nous n'avons pas seulement un grand homme de Dieu ou bien le plus grand homme de Dieu que nous avons écouté dans notre temps. Nous avons écouté Dieu lui-même. Nous avons écouté et compris la parole de Dieu. Et c'est peut-être raison que la crainte, nous l'avons devant la parole de Dieu, que ce qui a été dit, nous n'ajoutons rien à cela. J'étais très triste plusieurs fois lors de mon dernier voyage par l'Australie, parce que j'ai eu un petit aperçu du fonctionnement interne parmi ceux qui prétendent croire au message. Et alors qu'un frère à Adélie, mes actes frères Frank, imagine-toi, parce que justement, telle et telle direction croit que le Seigneur, selon Apocalypse 10, est déjà revenu et ils ont fait une nouvelle alliance. Donc ce n'est plus l'alliance par le sang, mais maintenant c'est la parole et ils ont, dans leur programme, ils n'ont plus les cantiques partout où le sang est chanté. C'est plus valable. Le sang n'est plus valable. Cela a pénétré mon cœur comme une épée. À quel point les gens peuvent aller dans l'égarement. Jusqu'à la fin, le vieux évangile reste valable. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jamais il y en aura un autre, jamais, en dehors de cet évangile qui nous a été légué, transmis et par notre Seigneur lui-même et par les apôtres. Et c'est justement cet évangile-là, le même, qui dans son intégralité, nouvellement, nous a été mis en lumière. Sûrement que jusqu'à à la fin de l'année, je vais devoir donner ce défi-là de me montrer où est-ce que Frère Branham a dit que le Seigneur est déjà revenu. Ils ont quand même montré ça, cette déclaration. Moi, je peux prouver que encore dans les prédications de 65, il disait, en le répétant, nous attendons encore le retour du Seigneur. Comment est-ce que des hommes peuvent seulement prendre certaines citations et les interpréter et les redonner et encore même les charger sur le dos d'un vrai prophète? Mais cela devra être fait connaître. Nous vivons dans un temps fou. Les gens perdent l'orientation parce qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu. Que personne ne pense que sa direction est correcte. Si elle se détourne de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, alors elle n'est plus correcte. Alors on peut même parler de Moïse et de tous les prophètes. Notre direction n'est plus correcte parce que nous sommes détournés des Écritures. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce dans toute humilité et avec un cœur reconnaissant, recevoir et croire la parole de Dieu. Alors que le frère Rousse, hier soir, devant le trône de la grâce, apportait la prière finale devant le trône de Dieu. Cela m'a touché. Ce qui a été exprimé. Vous avez encore les paroles, sûrement dans votre mémoire, c'est ce qui a été dit. Et je me suis moi-même posé la question et je veux aussi nous la poser à tous. Est-ce que cela nous a humiliés de ce que Dieu nous a fait grâce ou bien est-ce que nous avons reçu de la fierté parce que peut-être que nous connaissons mieux les choses que les autres? Que Dieu puisse nous montrer les limites, nous accorder un cœur humble, mais plein de reconnaissance, que nous ne pensions pas être quelque chose de mieux que les autres, Mais si quelque chose doit être loué et glorifié, alors c'est seulement la grâce de Dieu que nous avons reçue par la révélation de Jésus-Christ. Qui peut se procurer une révélation? Qui peut se donner une révélation? Personne. Personne, si ce n'est qu'elle elle lui est accordée par Dieu, de Dieu. C'est-à-dire que nous, nous sommes rassemblés ici comme hommes qui n'ont rien à apporter, mais qui sont prêts et qui ont ce désir-là de recevoir tout de celui qui nous a tout préparé. Dans la parole d'introduction, déjà nous l'avons lu. Ici, il est écrit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, le verset 9 de 1 Corinthiens 2. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Nous sommes de nouveau au centre de toute la chose de Dieu avec nous. Tout est dans l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu aime tous ceux qui sont nés de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'écrit dans 1 Jean 5, les premiers versets. Celui qui est né de Dieu aime tous ceux qui sont nés de Dieu. Cela me rappelle maintenant cet exemple de vendredi soir. Je voulais en fait pas le dire. Des frères et sœurs précieux, après que nous avions dîné en Belgique, ils nous ont conduits au lieu de réunion. Frères et sœurs, Kupfer était là. Et alors le prédicateur dit à ses bien-aimés frères et sœurs que tous nous aimons et que nous connaissons très bien, que nous estimons, des précieux frères et sœurs. Il dit aux frères, le prédicateur là-bas dit aux frères, toi, tu n'as pas le droit de prendre part à la réunion. Nous venons de loin, nous entreprenons un long trajet et les frères et sœurs nous conduisent au lieu de réunion. Et le frère qui a l'amour de Dieu dans son cœur et qui nous conduit au lieu de réunion, il lui est dit avant la réunion, tu n'as pas le droit d'entrer, tu n'as pas le droit de prendre part à cette réunion, à ce culte. Et vous pouvez vous imaginer, je comprends assez le français, toute l'atmosphère, pour avoir compris ça, et j'étais blessé. Je comprends plus, on ne comprenait plus le monde religieux. On peut comprendre tout le reste du monde, mais le monde religieux, le monde pieux, on ne peut plus le comprendre. Des larmes ont coulé. Les frères et sœurs ont dit ou bien pensent, mais qu'est-ce qui se passe? Un frère Franck prêche dans une réunion vendredi soir dans laquelle un frère qui aime frère Franck et dont frère Franck aime n'a pas le droit d'entrer et de prendre part à la réunion. Un frère qui a conduit frère Franck dans la réunion dans laquelle frère Franck doit prêcher. Si le cœur ne doit pas se déchirer, je ne sais pas, et tous veulent être dans la gloire auprès du Seigneur. Et les Alléluia ne manquent pas parmi eux. Et beaucoup se trompent eux-mêmes. Ils font de leur cœur une grotte de meurtriers. Ils ont deux âmes en eux. Ils vivent une double vie. Ils ont deux vies. Ils n'ont pas encore pris une pleine décision réelle. Et ils n'ont pas encore eu une expérience directe avec Dieu. Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de ces choses. Et cette fois-ci, il ne s'agissait vraiment pas de moi, de ma personne, mais il s'agit de ce qui se passait entre eux, des conflits ou bien des choses à régler. Il y en a qui veulent que Dieu leur pardonne tout, mais eux, ils ne sont pas prêts à se pardonner les uns les autres. Ils le gardent dans leur cœur, ils ont de la rancune, et quand il y a une occasion, alors ce qui est dans le cœur se manifeste. Nous avons à pardonner, et comment? Tel que Dieu nous a pardonné en Christ. C'est-à-dire entièrement. Entièrement. Et si Dieu a oublié, nous aussi nous avons à oublier. Car il est écrit que Dieu ne peut plus se rappeler que nous avons péché. Et aussi dans ce point, nous pouvons avoir une mauvaise mémoire. Que nous aussi, nous ne devons plus nous rappeler. Nous devons oublier. Et si il y a quelque chose qui aurait qui se serait passé. Nous devons croire que Dieu l'a pardonné. Et nous devons pardonner. Ici, alors que nous avons lu concernant la sagesse, j'ai pensé à cette parole de Jacques. Ici, dans Corinthiens, il est dit, au verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu est mystérieuse, elle est cachée. Mais c'est justement ce qui était caché, c'est justement ça qui devait être révélé. Jacques parle de cette sagesse divine, sagesse de Dieu ici, au chapitre 3, au verset 17. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse, au contraire, qui vient d'en haut, est d'abord pure. Jacques 3, verset 17. Puis pacifique, aimable, conciliante, abondante en miséricorde et en bons fruits, exempte de doute et sans hypocrisie. Traduction Mengue. Quelle parole puissante. Ça, c'est la sagesse divine qui vient d'en haut. Elle est pure. Elle est pacifique. Elle ne cherche pas à avoir raison. Elle ne pense pas à avoir raison. Rien de toutes ces choses qui sont partout parmi les croyants. Penser avoir raison. Ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut, mais la nature de Jésus-Christ, l'amour de Dieu révélé et prouvé aussi dans des situations d'épreuve qui parfois dépassent notre intelligence. La sagesse qui vient d'en haut, elle est d'abord pure, pacifique, aimable, conciliante, abondante en miséricorde et en bons fruits. Ça, c'est la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Tout le reste, c'est une sagesse humaine, peut-être que encore une autre, mais la sagesse de Dieu, elle vient avec la parole d'en haut. La parole du trône de Dieu est venue à nous et la révélation accompagne la parole qui nous est adressée. La sagesse de Dieu vient sur nous, vient à nous. Et il y a une relation qui est créée de notre cœur, de notre âme à Dieu, avec Dieu et à sa parole. Nous foulons le sol de la révélation et nous savons que, avec cela, nous nous trouvons directement dans la présence même directe de Dieu, dans le lieu très saint. Là où ce ne sont plus les hommes c'est plus les hommes qui interprètent et qui parlent, mais c'est Dieu qui apparaît avec sa gloire, où seule sa parole est valable et rien d'autre, où l'arche de l'alliance se trouve. Et je crois que ça, c'est la position, doit être la position de l'Église à la fin. Que nous puissions, dans la présence de Dieu, trouver notre place. La sagesse divine, la sagesse de Dieu lui-même, la révélation de la parole de Dieu, la révélation par l'Esprit de Dieu, la révélation, la manifestation de la puissance de Dieu, libre, exempte de doute, et sans hypocrisie, pas deux visages, pas deux langages, pas deux vies, un seul langage, c'est-à-dire le langage de Dieu, le langage des Écritures. Cela doit nous être accordé par la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre, au premier chapitre, nous lisons le verset 12. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12. 1 Pierre 1, verset 12, « Il leur fut révélé que par leur ministère, ils devaient transmettre non pas à eux-mêmes, mais à vous, les choses mêmes qui vous sont maintenant annoncées par les hommes qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. » des choses dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Le frère Schmitt nous a lu la parole. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et ici, maintenant, il est parlé de ce que des hommes ont été envoyés par Dieu, qui ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et que des choses ont été annoncées dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Ça voudrait presque signifier qu'il y a des choses qui existent, que même les anges, qui sont même restés cachés aux anges. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont même restées cachées aux anges. Le plus grand mystère, c'est le mystère de Christ et l'Église, le mystère de l'époux avec son épouse. Et si nous tirons cette en comparaison que si court avant, nous nous tenons si court avant le retour du Seigneur et que nous sommes arrivés très proches de son retour, alors nous devons comprendre que l'époux, maintenant, donne à l'épouse, révèle à l'épouse les derniers mystères, mais ces mystères doivent être dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de révélation de Dieu qui vient de Dieu, qui ne serait pas trouvée dans les Écritures, ou bien qui serait au-dessus de la parole, ou bien à côté de la parole. Non, il n'y a qu'une révélation de Dieu qui se déroule et qui existe dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Toutes les autres révélations sont des chemins parallèles qui nous mènent à la perdition. Le chemin de Dieu est toujours le chemin selon sa parole. Mais pensons à cela, nous voulons nous laisser permettre au Saint-Esprit de nous révéler ces choses, car il est écrit ici, « Il leur fut révélé, verset 12, que par leur ministère, ils devaient transmettre, non pas à eux-mêmes, mais à vous. » Transmettre quoi? Les choses mêmes qui vous sont maintenant annoncées par les hommes qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, des choses dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Tel que Dieu dans l'Ancien Testament a utilisé les prophètes, vint sur eux avec son esprit, et leur a donné, montré des visions, et leur a révélé sa parole. Et l'inspiration divine, leur a été accordée, c'est ainsi que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, a laissé le même Saint-Esprit venir sur les apôtres pour que la parole prophétique, le plan de Dieu qui était déjà fixé, fait, soit révélé au peuple de Dieu dans toute sa clarté, dans toute sa vérité, dans l'époque dans laquelle cela devait s'accomplir. Est-ce que quelque chose peut être changé à cela? Absolument rien du tout. Si aujourd'hui nous sommes dans le royaume de Dieu, alors aujourd'hui encore, les mêmes mesures sont valables et les mêmes conditions. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut dans le royaume de Dieu. Là, il faut que ce soit des hommes qui ont été déterminés par Dieu lui-même à annoncer l'évangile, pas selon l'homme, mais dans la puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance ne vient pas et n'est pas démontrée par les hommes qui prêchent la parole. Cette puissance-là vient du ciel, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu, d'une bouche mandatée, autorisée à parler, ils viennent sous l'écoute de la parole de Dieu, sous l'écoute de la puissance de Dieu, et reçoivent la révélation de la parole de Dieu, et sont enseignés par Dieu ainsi, et sous l'onction du Saint-Esprit, et aucun homme n'a besoin ensuite de les enseigner. Ils sont enseignés par Dieu. Cette parole est très importante ici. 1 Pierre 1, verset 12. Tel qu'au commencement de l'Église primitive, il y avait des hommes qui avaient reçu la parole de Dieu par une révélation divine fondée sur la parole prophétique. Des hommes, des choses même dans lesquelles les anges aimaient vraiment eux-mêmes regarder. C'est ainsi qu'à la fin des temps, Dieu a fait en sorte que ce soit la même chose, que ce ne soit pas des hommes qui présentent leur sagesse et veulent transmettre aux autres leur explication, leur interprétation, mais que ce soit par un appel divin que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché dans toute son intégralité. Heureux sommes-nous si l'Esprit de Dieu peut venir sur nous et nous révéler ces choses. Oui, nous introduire dans ces choses, dans les profondeurs des mystères de Dieu, des choses dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Regardez que cela peut être possible, que des hommes croyants, des croyants qui ont écouté la parole par de tels hommes-là, qui avaient été appelés du haut des cieux, qui ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ont reçu la révélation du ciel directement, que des choses sont annoncées dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Est-ce que cela ne nous humilie pas? Qui sommes-nous? Je peux vous le lire ici, ce que nous sommes. Dans le même Pierre, ici dans 1 Pierre, au premier chapitre, ici il est écrit, à partir du verset 24, ici peut-être déjà le verset 23 avec le verset 24. Vous êtes vraiment nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et éternelle de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est la parole. Or, c'est la parole qui vous a été annoncée comme un message de salut. Comme un message de salut. Il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas un autre évangile que ce qui avait été prêché au commencement. Et nous croyons que le ministère prophétique dans notre génération est resté dans les limites, s'est déroulé dans les limites de la parole, dans ces limites de la parole de Dieu. Et celui qui essaye de présenter les choses autrement n'a pas compris l'appel divin et le plan divin. Tout se fane et tombe. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme est comme la fleur de l'herbe, se fane et tombe. Et si nous pouvions nous représenter ça devant les yeux, que notre vie est courte comme une vapeur et que Dieu demande que nous puissions demander au Seigneur de bénir notre courte vie, que ce soit nos pieds, notre bouche, notre vie, que Dieu puisse, que cela soit placé dans le service, au service du Seigneur. Car toute chair est comme l'herbe, le verset 24, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Regardons les hommes autour de nous qui nous ont quittés. Regardez après 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Quel changement a eu lieu? Mais la même chose se passerait aussi avec moi et avec toi si le Seigneur ne vient pas avant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que toute la vie aura servi? À quoi avoir servi de toujours avoir voulu avoir raison si nous n'avons pas été une bénédiction pour les autres? Une vie que Dieu ne pouvait pas bénir a été vécue en vain. Et si des croyants veulent me dire qu'ils iront dans la gloire de Dieu sans que en eux la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham s'accomplisse, c'est-à-dire « Je te bénirai et ensuite tu seras une bénédiction », alors ça veut dire que j'ai mon doute justifié. J'ai le droit de douter. Un enfant de Dieu doit être une bénédiction. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, il n'est pas enfant de Dieu. Tous les autres servent aux troubles et commettent des troubles. Mais les bénis du Seigneur sont une bénédiction. Et c'est à cela que Dieu nous a déterminés. Mais là aussi, nous devons reconnaître que nous ne sommes que des hommes, oublieux et faibles. Nous sommes une fleur, nous fleurissons et subitement, nous fanons et nous tombons. Alors, nous allons seulement prendre avec nous dans la gloire ce que nous avons reçu de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et comme ici nous l'avons lu, la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Des hommes de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. Si nous sommes poussés et inspirés par le même Saint-Esprit, alors nous avons la même chose à dire que les prophètes ont dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Oui ou non? Est-ce que le Saint-Esprit va parler un autre langage? Est-ce que, parce que les temps ont changé, il va aussi changer sa parole? Non! Et encore une fois, non! Elle reste, tout reste tel que c'était dans les temps anciens. Mais elle a fait que être révélée nouvellement et mise en lumière dans notre génération. Mais elle reste la même parole. Tous les mystères que nous savons aujourd'hui étaient tous écrits dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Mais ils n'étaient pas révélés, ils étaient cachés parce que le temps pour cela n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son serviteur et prophète pour apporter le dernier message au dernier âge de l'Église à la Odyssée. Pas que de ce message nous créons des nouvelles directions, mais que nous puissions par ce message reconnaître la direction divine et ne pas comme ça former notre propre plan, mais reconnaître le plan de Dieu et dans ce plan de Dieu là nous laisser insérer. C'est ce qui compte dans ces jours. J'ai dû penser à une autre parole, à Éphésiens le chapitre 4 et aussi chapitre 5, car nous avons entendu tant de paroles, la question donc se pose, qu'est-ce que Dieu a pu réellement faire et produire et opérer en nous et accomplir en nous, après avoir entendu toutes ces paroles. Éphésiens chapitre 4, ici je lis seulement les premiers versets. Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec la patience de ceux qui se supportent mutuellement dans l'amour. Et soyez attentifs à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Traduction Menge. Bénis sont ceux qui procurent la paix, qui ont le cœur pur. Bénis sont ceux qui sont doux de cœur. Nous connaissons tous le serment sur la montagne. Nous connaissons tous aussi le commencement du serment sur la montagne où le Seigneur, n'est-ce pas, a donné toutes ses promesses dans Matthieu. Il dit, bénis sont tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux-là qui rentreront dans le royaume de Dieu. Mais bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ce sont ceux-là qui verront Dieu. Souvent, on ressent ou bien on le reçoit à ressentir tout ce qui peut sortir d'un homme, de son cœur, comme un tremblement de terre par lequel tout est renversé et il emporte tout sur son chemin. Cela n'a pas le droit de rester comme ça jusqu'à la fin parmi nous. Dieu veut nous faire grâce. Il veut changer notre nature. Et il veut sortir, ôter tout ce qui n'a pas sa place en nous comme croyants. Il veut nous accorder un cœur nouveau, un nouvel esprit, une nouvelle vie, une nouvelle nature. Nous avons déjà dit cela ici, dans notre corps, nous pouvons être faibles et être malades. Mais un homme qui est né de Dieu doit avoir reçu la vie de Dieu. Si nous disons que Dieu est notre Père, alors ça veut dire que nous avons été engendrés par Dieu et de Dieu peut que sortir Dieu. Tel que d'un homme peut que sortir un homme. Tout produit selon son espèce. Et Jésus était le premier-né entre plusieurs frères. Et si nous nous appelons frères, et que lui l'avait déjà dit, C'est écrit dans la parole prophétique, n'est-ce pas? Nous nous appelons frères. Il a dit, je révélerai ton nom à mes frères. Avons-nous pas lu cela hier concernant le nom? Père, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. C'est ainsi que c'était écrit déjà dans le prophète, dans la parole prophétique. Je révélerai ton nom à mes frères. Quelle révélation merveilleuse de Dieu en Christ. Et ensuite, la révélation de Christ en nous. Je ne sais pas si nous comprenons tout cela. Si cela déjà nous a été vraiment révélé par le Saint-Esprit. Car alors nous ne connaissons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous voyons le spirituel, nous écoutons le spirituel, le divin, nous voyons le divin et nous comprenons divinement parce que nous avons été ramenés dans l'état, dans la position divine. Ici, il est écrit, verset 2, en toute humilité et douceur, avec la patience de ceux qui se supportent mutuellement dans l'amour. Verset 3, et soyez attentifs à conserver l'union de l'esprit par le lien de la paix. L'union de l'esprit. Vous savez, nous savons que l'esprit de Dieu joint ensemble, unit et conduit ensemble. Mais dans la même épître d'Éphésiens, aussi, ici au chapitre 4, il est écrit au verset 14, car nous ne devons plus être des enfants ignorants, ballottés et entraînés comme les vagues de la mer par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui cherchent à séduire par la ruse. Cela cesse alors. Alors, nous revenons à l'unité de la foi, à l'union de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et alors, nous sommes enseignés par Dieu lui-même. Et alors, nous discernons là où il y a de la tromperie, il y a des séductions par la ruse, là où il y a des fausses doctrines, des enseignements que ni Paul, ni aucun apôtre, ni frère Branham ont enseigné. Nous pouvons donc discerner cela. Si c'est quelque chose qui est enseigné, que ni Paul, ni frère Branham, ni les apôtres ont enseigné, alors quoi? Et ça, c'est le discernement de l'esprit. Alors que frère Rousse parlait du don, du discernement. Discerner, nous pouvons seulement discerner si nous avons la parole de Dieu, que nous la laissons valable comme mesure. Nous ne pouvons pas discerner si quelque chose est correct ou pas. Ici, c'est le Orim Tumim, c'est le juste et le jugement. Comme du temps de Moïse, alors les sacrificateurs avaient les 12 pierres et ça brillait quand ce qui était présenté venait de Dieu. Ici, nous avons l'enseignement des apôtres et il faut que la lumière brille si la chose vient de Dieu. Et si elle ne brille pas, alors ça veut dire que ce qui est dit n'est pas vrai. Et là, on n'a pas besoin d'une lumière artificielle. Nous avons besoin de la lumière de Dieu, la parole révélée pour notre temps. Verset 31, chapitre 4 d'Éphésiens. Que toute amertume. Donc peut-être les deux derniers versets du chapitre 4, que tout, le verset 31. Que toute amertume, toute colère, toute animosité, toute rancœur, tout cri et toute injure et calomnie soient retirées du milieu de vous. Même toute malice et toute espèce de méchanceté. Faites plutôt preuve de bonté et de cœur les uns envers les autres, en vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous, en Christ vous a pardonné. Suivez donc l'exemple de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour comme aussi le Christ vous a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur de sainteté. Ici, il est écrit, suivez donc l'exemple de Dieu. Ici, il n'est pas écrit, suivez donc l'exemple de Christ, mais l'exemple de Dieu. Dieu était en Christ. Dieu a révélé son amour et sa grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Suivez donc l'exemple, le modèle de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Auparavant, il y avait un bien-aimé frère prédicateur de Düsseldorf, peut-être que plusieurs de nous le connaissent ou bien l'ont connu. Il a toujours bien chanté, aimé chanter un cantique. Nous sommes les enfants du Sauveur. Et vous savez, nous ne le prenons pas seulement exactement parce que la parole de Dieu doit être prise exactement, exactement. Mais nous prenons les choses exactement parce que Dieu les a prises exactement. Il veut que les choses soient prises exactement. Nous devons aussi là formuler les choses ou bien laisser les choses formuler telles qu'elles ont été formulées dans sa parole, dans la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire Jésus, tu es mon Père, ou bien nous sommes enfants du Sauveur. Non, ce n'est pas possible. Ou bien enfants d'un ange. Non. Donc nous devons voir les choses ordonnées bibliquement et les laisser, et les utiliser, et les employer, les formuler comme ça. Dieu est notre Père et il est devenu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il nous enseigne à prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc il s'agit de revenir comme l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, a couvert Marie de son ombre et que Christ naquit. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu, le même cet Esprit, nous couvre de son ombre pour que par nous, par la parole, la vie de Dieu soit manifestée et soit créée en nous et que ainsi nous devenions des fils et des filles de Dieu. C'est pour cette raison que notre Sauveur, encore dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, a dit, « Je vais vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. » Toutes ces écritures, ces versets bibliques ont une grande importance. Nous sommes la race de Dieu, devenue la race de Dieu, la descendance. Mais nous savons aussi comment ça s'est passé, comment ça a été, comment c'est devenu, comment nous le sommes devenus. Je l'ai mentionné hier, Dieu ne pouvait rien faire dans son corps spirituel en tant que Yahvé. Il devait venir dans un corps de chair. Comment est-ce que cela a eu lieu? La parole de la promesse a été donnée, annoncée, et l'Esprit de Dieu a couvert Marie, a couvert celle qui avait reçu la parole de la promesse. Et c'est ainsi que quelque chose de divin naquit. C'est comme ça aussi que cela est dit clairement dans les Saintes Écritures. Peut-être que je l'ai un peu formulé cru hier soir, mais je veux encore le répéter, malgré tout le répéter. Dieu n'a pas de fils au ciel auquel il avait dit, « Maintenant, je te laisse tomber sur terre, venir sur terre. » Non, non, cela n'existe pas. Il n'y a pas un entretien pendant ces 4000 années dans le ciel qu'un père aurait eu avec un fils. Pas une unique fois, ça n'existe pas. C'était Dieu le Seigneur lui-même. Elohim, Yahvé, Elohim qui est esprit, en tant que Yahvé, en forme visible, s'était révélé dans le Saint-Testament. C'est comme ça, dans cette forme visible qu'il a parlé au prophète. Et il était la parole qui, dès le commencement, était sortie de Dieu, le Logos. Et il est devenu chair, le même. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons comment est-ce que Dieu a ordonné les choses. Mais de la même manière, nous croyons que comme Père, Fils et Saint-Esprit, il s'est révélé. Nous ne touchons pas cette révélation de Dieu. Au contraire, nous nous réjouissons de ce que pour notre salut, il s'est révélé ainsi une fois pour accomplir la rédemption. Et pour la deuxième fois, pour établir sa demeure dans les rachetés, pour pouvoir habiter dans les rachetés. Et sa révélation dans la chair a eu lieu pour nous qui avons été condamnés dans la chair pour nous sauver. Et sa révélation dans l'esprit a eu lieu pour ensuite, par l'esprit, remplir les rachetés. Tout a eu lieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse, le grand plan de Dieu. En fait, la parole de Dieu n'est pas pour les théologues, n'est pas pensée pour les théologues. Ils se sont eux-mêmes attribué la chose. Ou bien alors, encore mieux dit, ils l'ont prise sans avoir un droit divin, un appel divin. La parole de Dieu est venue à ceux que Dieu avait déterminé à l'apporter. Et la parole de Dieu est adressée à ceux qui ont été déterminés à voir la gloire de Dieu. Mais pas à des hommes qui en ont fait quelque chose de scientifique. Je pense encore à ce prêtre hollandais qui avait étudié 7 ans. Il était venu à nous ici au commencement et il est tombé par l'enseignement de la Trinité. Il me disait, frère Franck, pendant sept ans, j'ai étudié et la chose principale, c'était pendant 7 ans d'établir la relation entre Père et le Fils, et le Fils et le Père, et l'Esprit, et le Fils et l'Esprit et le Dieu. Ça, c'était la chose principale dans toutes nos études pendant 7 ans. Je lui ai dit, oublie ces 7 ans et tout ce que tu as étudié. Et alors Dieu se révélera à toi. Les hommes ont fait quelque chose de scientifique. Et tout cela est un obstacle pour eux, la tête qu'ils portent avec eux. Ils doivent en fait l'ôter. Et que les choses puissent tomber dans leur cœur, les choses de Dieu qui sont vraies, qui sont réelles. Ici, nous avons la parole de Dieu. Et il est dit, suivez donc l'exemple de Dieu, le modèle de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour comme aussi le Christ vous a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur de sainteté. C'est en Christ, notre Seigneur, que nous avons été agréés par Dieu et rendus agréables à Dieu. Il est le sacrifice parfait. Aucun autre sacrifice est nécessaire pour nos péchés. Nous croyons que le sacrifice de Golgotha, une fois pour toutes, a été accompli et est suffisant pour tous ceux qui croient et qui, dans la foi, fixent, voient le Seigneur sur la croix. Comme un cantique le dit, celui qui regarde à Jésus dans la foi, sur la croix, reçoit au même moment son salut. Que nous soyons guéris, sauvés, comme il est écrit, il n'y a pas de salut en aucun autre et dans aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui existe sous le soleil dans lequel nous aurions le salut. Non, nous voyons que tout va ensemble, le sang, la parole, l'esprit, l'évangile, les mystères, la révélation de Dieu en Christ, la révélation de son nom et de sa volonté, tout va ensemble. Heureux les hommes qui, sous l'écoute de la parole, voient toutes ces choses, acceptent, reçoivent, et ceux à qui ces choses sont révélées par l'Esprit de Dieu. Pas de quelque chose de nouveau, et malgré tout, tout nouveau. Est-ce que la Bible n'est pas devenue pour nous un nouveau livre? Est-ce que les anciennes vérités n'ont-elles pas été révélées nouvellement? Est-ce qu'elles ne nous ont pas inondé le cœur quand nous pensons à ce que Dieu a fait? Nous devons seulement faire attention à ne pas nous refroidir, comme notre frère de Palermo, mercredi soir ici, disait, là où Dieu est, là, il ne fait pas froid. Vous savez, nous avons tous entendu comment ça devrait continuer. Alors, cela vint comme tiré du revolver. Dieu est un feu. Dieu est feu. Dieu est un feu saint, un feu dévorant. Et parce qu'il est feu, en sa présence, il ne peut pas faire froid. Et si nous sommes dans sa présence, alors le feu divin nous pénètre et nous consume et nous fait perdre notre nature. C'est une prédication courte, mais puissante, que nous avons écoutée ici. Mercredi, parfois, vous manquez quelque chose quand vous n'êtes pas ici les mercredis. Je veux parler maintenant de nos frères et sœurs de l'Assemblée locale. Le temps, peut-être, viendra de nouveau où nous ne pouvons même pas attendre qu'une réunion arrive. Tellement nous sommes pressés que cela arrive. Comme il est écrit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qu'on soit heureux quand on vient dans la maison du Seigneur. Cela ne veut pas parler ici d'un bâtiment fait de main d'homme, mais de se rassembler comme église du Dieu vivant. Et n'oublions pas que l'Église est jugée, la condamnation a été déjà prononcée sur elle, et le jugement et la condamnation et la malédiction, tout est tombé sur lui pour que nous ayons la paix et que nous soyons justifiés et que nous soyons rachetés et trouvions le salut et maintenant pouvons servir le Seigneur. Faisons attention que tout ce que cette vie de Dieu, tout ce qui pourrait étouffer ou bien retenir ou bien attrister cette vie de Dieu en nous, que cela ne sorte pas de nous, ne soit pas en nous, soit point en nous, que nous puissions être attentifs, veiller à cela, à ce que le Seigneur puisse avoir son chemin avec nous et qu'il ne soit pas attristé par nos pensées, par nos paroles, et que nous restons dans l'amour de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la parole de Dieu, restons dans la grâce de Dieu, demeurons dans toutes ces choses, tout ce que Dieu nous a accordé. C'est dans ces choses que nous voulons marcher et que nous voulons vivre et être trouvés dans ces choses en ce jour quand le Seigneur reviendra. Mais puisque nous ne savons pas quand est-ce que notre temps arrivera, nous ne savons pas, le frère Branham disait autrefois, je pourrais me tromper de 20 ans, de 50 ans, mais de 100 ans, mais il était prêt en tout temps à rencontrer le Seigneur. Donc il ne s'agit pas de calculer des temps. Il s'agit que nous puissions déjà maintenant avoir la certitude dans notre cœur d'être prêts si le Seigneur arrive. Ou bien si nous partons. Combien se couchent le soir et se réveillent plus le matin, ou bien vont en voyage et ne reviennent plus. La vie est comme une vapeur, comme l'herbe qui fleurit et ensuite fane et tombe. Et subitement, nous ne sommes plus là. Mais si nous avons la certitude d'avoir pardonné tout, tel que Dieu nous a pardonné en Christ, de ne même plus avoir raison, au contraire, de ressentir nous-mêmes qu'on a mal fait, alors on n'a rien contre qui que ce soit. Alors Dieu pourra être avec nous et nous le remercions pour le pardon, pour la réconciliation et pour le salut. Et nous pourrons continuer à marcher dans la foi, dans la paix avec tous les hommes jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vie. Que le Seigneur puisse bénir toutes ces paroles en nous et nous donner un cœur reconnaissant dans le plus profond de notre cœur. Car ça, nous avons souvent souligné parmi des milliards, il y a seulement une poignée de personnes qui ont reçu dans ce temps la parole révélée et qui ont la grâce de l'écouter dans sa pureté. Nous avons la grâce d'appartenir à ce petit troupeau et à cela, et d'appartenir et de compter à ce petit troupeau. Cela devrait déjà être assez de raisons pour remercier le Seigneur. De ce que personne en ait besoin encore de supplier pour ouvrir notre bouche et louer le Seigneur, pour qu'on puisse ouvrir notre bouche et louer le Seigneur. Mais que comme d'une seule bouche, nous puissions louer le Seigneur de ce qu'il nous fait grâce et qu'il nous a accueillis. Oui, qu'il a parlé avec nous et qu'il s'est révélé lui-même à nous. Il nous a révélé sa parole et ses mystères. Qu'il puisse nous accorder la sagesse d'en haut, la sagesse qui se laisse reprendre, qui ne s'enfle pas, qui ne sait pas toujours mieux les choses que les autres, la sagesse qui est pure, qui est sans hypocrisie, qui est exempte de doute, de ruse, de malice, de méchanceté, de vouloir avoir raison. Non, la sagesse pure, divine de Dieu, qui est pacifique, qui vient avec la parole révélée de Dieu comme instruction, comme enseignement, comme être introduit dans toutes ces choses que Dieu a déterminées pour ce jour. Pour ce temps, qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Nous pouvons seulement que nous dire merci à Dieu et dire Seigneur, nous sommes comme ceux qui rêvent, mais nous ne rêvons pas. Nous ne rêvons pas. Nous sommes vrais. Nous sommes, réveillés. Et nous avons été réveillés parce que nous avons écouté le dernier appel. Et il nous a réveillés et nous voulons nous tenir à la disposition du Seigneur. Et jusqu'à la fin, restez fidèles. Il te tient et il me tient, il nous tient tous. Nous sommes saisis par tenu par ses mains et nous sommes dans ses mains, percés, gravés dans ses mains, percés. Et nous restons, demeurons dans ses mains et cela jusqu'à que nous passions la foi à la vue. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Levons-nous pour remercier Dieu. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions ensemble pour le grand privilège que nous avons d'être dans ton nom, dans ta présence, sous l'écoute de ta parole rassemblée. Bien-aimé Seigneur, ta parole est fraîche, elle est vivante, elle est parfois tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre, elle sépare tout ce qui ne vient pas de toi et nous accorde tout ce que tu nous as accordé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu fidèle, les choses dont les prophètes faisaient que se les imaginer, nous pouvons maintenant les voir. Les voir sous nos yeux accomplis, les choses même que les apôtres avaient écrit et dont ils avaient parlé, nous pouvons les voir sous nos yeux. Oh Seigneur notre Dieu, tu as pris tous les apôtres et les prophètes, mais ta parole nous est demeurée, nous est restée, ta grâce nous est restée. Nous te remercions pour cela. Agrène-nous tous, accueille-nous tous. Oh Dieu fidèle, crée quelque chose de nouveau. Crée ces choses par la puissance de ton sang. Opère ces choses par la puissance de ton esprit et par la puissance de ta parole en nous tous. Que ta parole soit accompagnée de ta sagesse. C'est de ça qu'il s'agit, Seigneur, car c'est la révélation de l'esprit. Mon Dieu, ensemble nous te remercions pour le privilège que nous avons d'avoir écouté le message et de n'avoir rien ajouté et de n'en avoir rien retranché, d'attendre patiemment et de persévérer jusqu'à que tu accomplisses tout ce que tu as promis. Bénis avec nous ton peuple dans son entièreté, son peuple dans l'adoration. Bénis Israël, bénis ton Église, bénis l'épouse de l'agneau. Bien-aimé Seigneur, toi, époux de notre âme, de nos âmes, avec quel amour tu parles avec nous, ô Seigneur. Oh, nous te remercions pour cela. Nous te remettons tout. Ceux qui nous comprennent mal, nous te prions pour tous ceux qui piétinent notre nom et qui le rejette, je le pense réellement. Fais-leur grâce, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne reconnaissent pas que leur langue est enflammée par la gêne, par l'enfer. Ils ne sont pas conscients des troubles et des dégâts qu'ils commettent parmi ton peuple. Oh Sauveur, fais grâce à tous ceux qui ont goûté le salut, la coupe, qu'on but de la coupe du salut. Ô Seigneur, mets-toi à travers leur chemin et ordonne que cela cesse et que chacun, Seigneur, se tienne devant toi. Reviens parmi nous, ô Seigneur, et que ton évangile ne soit pas seulement apporté et écouté en parole, mais dans la puissance, soit expérimenté personnellement par chacun. Nous attendons ces choses et nous croyons que cela va arriver. Encore une fois, nous te remercions de la plénitude de nos cœurs pour toutes tes preuves de grâce. Jusqu'ici, tu nous as apporté et tu nous conduiras jusqu'au but, jusqu'à la fin. Conserve-nous fidèles, ô fidèle Sauveur. Conserve-nous fidèles, car j'ai un chemin à suivre et plusieurs batailles à surmonter. Accorde assez de force pour le faire. Conserve-moi fidèle Oh, nous te remercions aussi pour tous les frères et les sœurs, pour chacun. Bénis tous les frères et les sœurs qui ne pouvaient pas venir. Nous pensons à tous ceux qui sont dans des difficultés, à toutes les requêtes, nous te les apportons. Sauveur fidèle, Dieu fidèle, chacun a des difficultés, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans la famille, quoi que ce soit, ou que ce soit partout, il y a des difficultés. Partout, il y a des soupirs et des plaintes, ô Seigneur notre Dieu, des lamentations, des cris. Seigneur, que tu puisses faire grâce et de ton saint trône, Seigneur, d'étendre ta droite et accorder à ton peuple la victoire de Golgotha, qu'elle soit manifestée parmi ton peuple pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Que tu puisses placer tous tes ennemis sous ton marchepied. Nous te remercions de ce que tu le feras, car c'est ainsi que c'est écrit. Alléluia. Honneur et gloire soient apportés à ton merveilleux et saint nom. Amen.